Les lois ne sont-elles qu'une entrave à notre liberté? Corrigé de l'exercice numéro 2, explication d'un texte de Platon tiré du Gorgias. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le moral, et c'est parti pour se corriger. Vous ouvrez, si ce n'est pas déjà fait, votre corrigé image, donc le document support. Vous prenez vos notes de cours, puisque vous avez commencé à prendre des notes, étant donné que vous êtes très sérieux. Et on va commencer par la lecture du texte, page 3, puisqu'il faut toujours lire, relire, re-relire un texte. Je vous l'ai dit, je vous le répète et je vous le répéterai encore. C'est parti pour ce texte. Donc, Platon, Gorgias, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est Calliclès qui parle. Certes, ce sont les faibles, la masse des gens qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent des louanges, qu'ils répartissent des blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. C'est parti pour le texte. Platon, Gorgias, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est Calliclès qui parle. Je vous rappelle que les œuvres de Platon sont souvent des dialogues, donc ce sont des personnages qui parlent. Ici, le personnage de Calliclès est un personnage parfaitement inventé, qui est un adversaire de Socrate. Donc, ce que pense Calliclès, c'est le contraire de ce que pense Socrate, et c'est donc le contraire de ce que pense Platon. Surtout, on ne dit pas que c'est Platon qui a cette position, mais bien le personnage de Calliclès. C'est parti pour la lecture. Certes, ce sont les faibles, la masse des gens qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent des louanges, qu'ils répartissent des blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. C'est pour empêcher que ces hommes ne leur soient supérieurs qu'ils disent qu'il est mauvais, qu'il est injuste d'avoir plus que les autres et que l'injustice consiste justement à vouloir avoir plus. Car ce qui plaît aux faibles, c'est d'avoir l'air d'être égaux à de tels hommes, alors qu'ils leur sont inférieurs. Et quand on dit qu'il est injuste, qu'il est mauvais de vouloir avoir plus que la plupart des gens, on s'exprime en se référant à la loi. Or, au contraire, il est évident selon moi que la justice consiste en ce que le meilleur est plus que le moins bon, et le plus fort plus que le moins fort. Partout il en est ainsi. C'est ce que la nature enseigne, chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humaines, et dans toutes les cités. Si le plus fort domine le moins fort, et s'il est supérieur à lui, c'est là le signe que c'est juste. La première question que vous aviez dans votre questionnaire en ligne était la suivante. En quoi ce texte peut nous être utile pour donner un élément de réponse à notre sujet? Les lois ne sont-elles qu'une entrave à la liberté? Pour cela, il faut donc déterminer la thèse du texte et... Pour cela, il faut faire le TPTE. Donc, on va à la page 4 où je vous ai fait une image de ce fameux TPTE que vous trouvez dans le corrigé en PDF, qui est un corrigé entièrement rédigé ou quasiment entièrement rédigé. Le premier T, c'est le thème. Et le thème, je vous le rappelle, il faut que ce soit des notions du programme. Donc ici, la liberté, la société, la justice, la loi et éventuellement des notions qui ne sont pas du programme mais qui sont présentes dans le texte et qui permettent de comprendre les notions du programme. Ici, la nature est une notion extrêmement importante sur laquelle il va falloir se pencher. Parce que Calliclès, il utilise justement la nature pour s'opposer, pour critiquer les lois civiles et l'état de société. Le problème du texte, c'est toujours le grand problème de l'histoire de la philosophie politique, à savoir pourquoi est-ce que les hommes s'unissent en société, pourquoi est-ce qu'ils créent des lois auxquelles ils se soumettent, et ces lois sont-elles réellement justes? Donc, par rapport à ce problème, quelle est la thèse de Calliclès? Eh bien, Calliclès considère que ceux qui ont un intérêt à la société civile et à l'instauration des lois, ce sont ceux qui sont les plus faibles, naturellement. Calliclès, il oppose les forts et les faibles, une opposition qui n'est pas forcément extrêmement claire, qui parcourt tout le texte, et donc il faudra évidemment préciser pour pouvoir bien expliquer le texte. Donc ces faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'unissent pour être supérieurs à ceux qui sont plus forts naturellement. Ainsi, les lois civiles, elles ne sont pas juste pour Calliclès. Ce qui est juste, c'est de faire ce que la nature enseigne. Ça, c'est dans le texte, hein, ce que la nature enseigne. Et ce qu'elle enseigne, c'est que les plus forts doivent dominer les plus faibles. Le plan du texte à présent. Donc, on commence des lignes 1 à 4 jusqu'à supérieur. Calliclès énonce sa thèse. Les lois civiles et morales sont créées par les faibles qui doivent s'unir pour soumettre les forts. Ensuite, de la ligne 4 à 8, il va y avoir une justification. Pourquoi est-ce que les faibles s'unissent sur comment est-ce qu'ils justifient en fait cette union, comment est-ce qu'ils justifient le fait d'imposer certaines lois aux forts. Donc c'est que les faibles, ils s'appuient sur une conception de la justice qui pour Calliclès n'est qu'une apparence de justice. Et cette conception, c'est l'égalité. Les faibles, ce qu'ils veulent, c'est l'égalité, justement pour pouvoir dominer, subjuguer. Subjuguer, ça veut dire mettre sous le joug, sous la domination, quelque chose. Donc, pour pouvoir subjuguer les forts, ceux qui sont plus forts qu'eux. Donc, ce principe de justice, l'égalité, ce n'est pas du tout la conception de la justice de Calliclès. Et de la ligne 8 jusqu'à la fin, Calliclès va opposer ce qui est pour lui le vrai principe de justice, c'est-à-dire l'équité, en tout cas une forme d'équité. On verra la différence entre égalité et équité au fur et à mesure des questions de détail. Hein. Donc, l'équité qui consiste à donner à chacun ce qu'il mérite, et là, en l'occurrence, à chacun ce qu'il mérite en fonction de sa force. Allez, on va passer aux questions. La première question était, de quelle loi parle Calliclès qui les établit comment? Question pas franchement très très difficile. Les lois dont parle Calliclès ici, alors c'est évidemment les lois civiles. Elles sont créées, elles sont instaurées hein, par les hommes, en l'occurrence les faibles. Donc qui les établit? Les faibles. Et comment est-ce qu'ils les établissent? Ils les établissent en s'unissant dans une société pour les imposer aux individus qui sont des individus fort. Donc, loi civile, c'est sûr. Loi morale également. Vous avez un certain nombre de termes qui renvoient au champ lexical de la morale, notamment les verbes louer et blâmer, enfin en tout cas la louange et le blâme. Ce sont des termes qui correspondent à de l'appréciation morale. Quand je fais des louanges sur quelqu'un, je ne dis que du bien de lui et je l'estime bon. Ayant de grandes qualités, des grandes vertus, etc. Au contraire, quand je blâme quelqu'un, je lui reproche un certain nombre de défauts, et notamment des défauts moraux. Le blâme, c'est une forme de sanction, en fait. C'est une reconnaissance inversée de la moralité de quelqu'un. Calliclès vise donc ici toutes les lois qui sont instaurées. Et par qui est-ce qu'elles sont instaurées? Ces lois, elles sont instaurées par les faibles. Pour Calliclès, en effet, le monde se divise en deux catégories. En tout cas, les hommes se divisent en deux catégories. Les forts d'un côté, les faibles de l'autre. Ces deux catégories renvoient à des qualités qui sont des qualités assez floues. Et à aucun moment, Calliclès ne précise ce qu'il entend par fort et ce qu'il entend par faible. Comme si le sens de ces mots était évident. Or, il ne l'est pas du tout. Ce qui est clair, c'est que ces catégories, ce sont des catégories qui renvoient à une force ou à une faiblesse qui sont purement individuelles, puisque ben, le propre des faibles, c'est qu'en fait, ils trouvent une force à s'unir. Donc, ils sont faibles individuellement, mais en groupe, ils sont assez forts pour être supérieurs à ceux qui sont plus forts individuellement parlant. Ensuite, on peut se demander en quoi consiste la force et la faiblesse. On pense immédiatement à la force physique, mais il est sans doute probable que ce ne soit pas la seule force dont il s'agisse, puisque la force physique n'est évidemment pas suffisante pour être le plus fort. Ceux qui sont les plus forts physiquement ne sont pas nécessairement ceux qui gagnent un combat. La stratégie joue aussi beaucoup. Donc, quelles sont exactement les qualités qui font la force de quelqu'un? Ça, ce n'est absolument pas clair. On peut donc penser que ces deux catégories servent surtout à produire une division parmi les hommes. La société, elle tient parce que les hommes sont unis, se reconnaissent mutuellement comme égaux. Le but de Calliclès, c'est essentiellement de diviser, de casser cette unité. Cela m'amène à la deuxième question. La deuxième question était: quel principe de justice les faibles veulent-ils opposer aux forts? Je viens de le dire, donc c'est une question d'égalité. Créer l'unité du genre humain par l'égalité des droits. Très important cette expression, égalité des droits. Ça signifie que dans la société, tous sont soumis aux mêmes lois et ont les mêmes libertés, les mêmes possibilités, les mêmes garanties, etc., etc. Cette égalité, Calliclès la considère comme factice, il la dénigre, vous avez l'expression dans le texte, avoir l'air supérieur, avoir l'air égaux, pardon, aux forts, donc les faibles utilisent l'égalité pour se donner une apparence de force qu'ils n'ont pas. Je mords un peu ici sur ma question 3, puisque l'égalité est rejetée par Calliclès au nom d'un autre principe qui constitue le deuxième grand principe de justice qu'on répertorie. En général, donc en face de l'égalité qui consiste à donner la même chose à tous, vous avez l'équité. L'équité, ça consiste à attribuer non pas la même chose à tous, mais d'établir un critère permettant de faire varier l'attribution. Par exemple, si je corrige vos copies, je ne vais pas mettre la même note à tout le monde, je vais faire varier la note en fonction de la maîtrise de la méthode, de l'utilisation des connaissances philosophiques, etc. J'ai un certain nombre de critères qui vont permettre de faire varier ma note. Donc, la plupart du temps, on utilise l'un ou l'autre de ces deux principes, l'équité ou l'égalité, en fonction de la situation. À la page 6, vous avez une image que je trouve assez parlante, et je vous dis, il faut aussi la prendre avec quelques précautions, qui permet de comprendre la différence entre égalité et équité. Là, vous voyez que, en effet, on a des personne, un adulte, deux enfants d'âge différent qui donc ne font pas la même taille, et si on leur donne la même caisse à chacun, ils ne vont pas pouvoir compenser en fait leur différence de taille. Donc dans ce cas-là, si on veut que les enfants comme l'adulte voient le paysage par-dessus la palissade, il va falloir donner un nombre de caisses différentes à chacun. Pourquoi est-ce que je vous dis de prendre cette image avec des pincettes? Parce qu'elle fait plutôt, je la trouve orientée, elle fait un peu l'éloge de l'équité. L'équité ayant ici l'air d'être plus intéressante et plus juste que l'égalité. C'est évidemment le cas ici, dans cette situation, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut penser, par exemple, aux différences de salaire. Dans la société, on considère qu'on ne va pas donner le même salaire à tout le monde et on va faire varier le salaire en fonction du temps de travail ou du nombre d'années d'études qu'il a fallu consacrer à la formation pour ce travail. Bon, il y a un certain nombre de critères comme cela. Alors le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait des écarts de salaire. Le problème, c'est quelle proportion en fait d'écart est acceptable. Quand certains joueurs de foot, par exemple, gagnent en un an l'équivalent de ce que 4 ou 5 enseignants français vont gagner pendant toute leur carrière, c'est-à-dire l'équivalent de 200 années de salaire d'un enseignant, on peut se poser la question de la justification de cet écart. Donc, pour résumer, égalité et équité sont deux principes de justice possibles à utiliser en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Pour Calliclès, et là j'arrive à ma question 3, quel principe de justice propose Calliclès? Comment entendez-vous meilleur dans ce contexte? Pour Calliclès, il est évident que seule l'équité est un véritable principe de justice. D'ailleurs, Calliclès utilise cet adjectif évident, il est évident selon moi. C'est ce qu'on appelle, alors Calliclès c'est un sophiste et il est en train de faire un sophisme. Un sophisme c'est un argument fallacieux, c'est-à-dire qui a pour but de tromper l'ennemi. Et cet argument là qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'appel au bon sens. Méfiez-vous de quelqu'un qui On appelle souvent au bon sens en disant mais il est évident que c'est du bon sens, etc., etc. Ce sont généralement des expressions qu'on emploie quand on veut essayer de couper court à la critique. Calliclès essaie donc ici de faire passer l'équité comme étant le seul principe de justice acceptable, et on est tenter d'accepter cette évidence, puisqu'il nous dit il est normal que le meilleur est plus que le moins bon et que le plus fort est plus que le moins fort. Sauf qu'encore une fois, tout ça est assez flou. Que signifie meilleur ici? Évidemment, on pense au meilleur moralement, au plus vertueux. Le meilleur, c'est celui qui excelle, qui a de meilleures performances que quelqu'un d'autre, a des qualités plus développées que les autres. Donc, c'est celui qui est excellent, c'est l'homme excellent, l'homme vertueux dont il est question ici, soit dans un domaine précis, soit plus précisément dans le domaine de la morale. En effet, l'adjectif bon, quand je l'utilise tout seul, quand je dis de quelqu'un, d'un homme, que c'est un homme bon, je parle de ses qualités morales. Un homme bon, c'est quelqu'un de bienveillant, de généreux, qui aide les autres, etc. Alors Calliclès ne se contente pas de dire de l'évidence, hein. Il va donner un argument à l'appui de cette idée que l'équité est le seul principe de justice qui vaille. Ça m'amène donc à ma question 4. Quel est l'argument de Calliclès à l'appui de son principe? Quelles en sont les limites également? Donc Calliclès, je vous ai dit tout à l'heure qu'il utilisait un sophisme qu'on appelle l'appel au bon sens. Il en utilise un deuxième, en fait, il utilise beaucoup de sophismes, Calliclès. Donc il en utilise un deuxième qu'on appelle l'appel à la nature. Je me permets de relire le texte. C'est à la ligne 9, je crois, du texte, c'est après le numéro 3. Donc partout, il en est ainsi. C'est ce que la nature enseigne chez toutes les espèces d'animaux, chez toutes les races humaines et dans toutes les cités. Donc que fait Calliclès ici? En gros, il nous dit, ben, regardez ce qui se passe dans la nature. Ce qui se passe dans la nature, ça nous montre ce qui se passe normalement, naturellement, chez les hommes, si on les laissait à leur état naturel, sans loi, qui viennent créer une fausse égalité entre eux. L'appel à la nature, c'est un sophisme que j'ai l'habitude d'entendre, puisque comme vous le savez, je suis végétarienne, et donc quand j'explique les raisons pour lesquelles je suis végétarienne, en général, il y a toujours quelqu'un pour me dire oui, mais c'est pas naturel pour l'homme d'être végétarien. L'homme, il est naturellement carnivore, donc en gros, il faut pas être végétarien. Ce à quoi je réponds en général, et donc il faudrait vivre nu parce que les vêtements, c'est pas naturel non plus. Parce que bah, c'est ça la limite en fait de l'appel à la nature, c'est que l'homme n'est plus un être naturel depuis bien longtemps. Votre téléphone, la plupart des objets que vous avez sont des objets artificiels. Nos comportements sont produits par l'éducation. Bref, nous sommes des êtres cultivés et non des êtres naturels. Donc l'appel à la nature, bah, c'est souvent un argument de mauvaise foi, en fait. Ceux qui l'utilisent ne sont en général pas prêts à jeter leur téléphone, à jeter leur ordinateur ou à aller vivre nus dans les bois. Ensuite, bah, il y a une deuxième limite à l'argument de Calliclès. Cette limite, c'est qu'il nous dit, ben, regardez les autres espèces animales et vous voyez que ben, ce sont les plus forts qui gagnent et qui dominent sur les autres. Ben, en fait, si on regarde les autres espèces animales, on va trouver des contre-exemples à ce que dit Calliclès, notamment chez les espèces qui sont des espèces sociales, comme les fourmis, comme les abeilles. Dans ce type d'espèces, ce ne sont pas les individus qui compte, ce ne sont pas les individus les plus forts qui dominent sur les plus faibles, mais il y a comme des règles naturelles, instinctives, qui poussent chaque individu à coopérer dans la société et donc à faire partie de la force collective. Bref, cet argument, cet appel à la nature de Calliclès, c'est un argument qui est relativement faible, mais qui a une certaine force du point de vue de la persuasion, et c'est ce que cherche à faire Calliclès. Donc pour lui, et c'est comme ça que se finit le texte, la loi du plus fort, c'est celle qui est la plus juste. La loi du plus fort, c'est la loi de la nature, et la vraie justice, c'est la justice de la nature. La question qui se pose donc est, est-ce que la loi du plus fort peut être qualifiée de juste? C'est un problème parce que, ben, comme on vient de le dire, la loi du plus fort, c'est la loi de la nature. Et ben, on n'a pas tendance à qualifier la nature de juste. En général, on appelle juste quelqu'un, une personne, qui est dotée de cette qualité morale qu'est la justice. Donc pour être juste, il faut être un être moral, capable de réfléchir, capable d'évaluer une situation, capable d'être rationnel. Et il faut être libre d'agir. Il faut être libre d'être immoral d'une certaine manière ou d'être injuste. Il y a de la justice parce qu'il y a une possibilité d'injustice. Et la justice, c'est cette qualité qui consiste à rééquilibrer des choses qui sont déséquilibrées. Donc on peut dire que la loi du plus fort, finalement, elle n'est ni juste ni injuste. Elle correspond à la nature, elle correspond à un monde qui est un monde non humain. Ce qui est juste, c'est ce qui est humain. Et l'injustice, elle est aussi également humaine. On ne dira pas du coronavirus qu'il est injuste. Pourtant, il fait beaucoup de mal. Mais il n'est pas injuste. Celui qui est injuste, c'est celui qui a fait des mauvais choix et qui, alors qu'il aurait pu produire une situation d'équilibre, ne l'a pas fait. Le système de santé américain, par exemple, il est profondément injuste. C'est un très mauvais système de santé. On le voit avec la première malade du coronavirus qui se retrouve avec une facture de 34 000 dollars. Je ne sais pas si vous avez vu cet article, parce que à ce moment-là, elle était au chômage et que généralement, les Américains, quand ils sont au chômage, ils n'ont pas d'assurance santé. Donc, sans assurance santé, elle va avoir une dette pendant des années pour quelques tests qui ont été pratiqués sur elle et un petit traitement. Bref, je finis par une petite conclusion. Là, la position que défend Calliclès, c'est une position qu'on peut qualifier de trois adjectifs. C'est une position qui est individualiste. Pour Calliclès, il n'y a que l'intérêt individuel qui compte. L'intérêt collectif, Calliclès, il ne sait pas ce que c'est. C'est une position qui est naturaliste, qui repose sur l'idée qu'il faut laisser faire la nature en l'homme et donc donner au plus fort naturellement et individuellement le plus. Et c'est une position qui est immoraliste. On l'a vu avec les TES et les TS, et vous le verrez, les STMG. C'est une position. Calliclès, c'est quelqu'un qui s'oppose à la morale. Pour Calliclès, l'individu, il doit faire ce qu'il désire sans se mettre de limites. Et la morale, c'est ce qui limite l'individu et l'empêche d'accéder au bonheur. Donc la morale, c'est un artifice qui est créé pour justifier la prise de pouvoir des faibles sur les forts, et qui empêche les forts d'exister, d'être heureux et d'être libres. Je m'arrête là, j'espère que c'était assez clair et on se retrouve bientôt pour un nouveau corrigé. Si vous avez des questions, vous verrez, j'ai trouvé un petit système pour que vous puissiez poser vos questions et que je puisse y répondre de manière un peu fluide. Donc à très bientôt!